bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Fudolo dans Reportage. Dans ce reportage du jour, le deuxième épisode de la conférence sur le harcèlement scolaire organisée le 13 mars dernier par la MFR, la Maison Familiale et Rurale de Cologne, au sein de la grande salle de la MJC La Maison. Vous avez pu entendre le premier épisode de cette conférence il y a 15 jours sur les ondes de Radio Fudolo. Voici le deuxième épisode, c'est parti. Donc pour cette reprise, le temps que les derniers reprennent gentiment leur place, on va vous proposer donc encore un nouveau un film qui s'appelle Connexion perdue. Je vous laisse le découvrir et on en parle justement peut-être un petit peu plus juste après le film Connexion perdue.
Salut, moi c'est Alex. J'habite à l'île Jourdain, à côté de Toulouse, dans une petite ville du Gers. Je vis seul avec ma fille Léa, après que sa mère et moi ayons décidé de nous séparer. Bon, c'est la vie, hein. En France, près d'un mariage sur deux se termine par un divorce. Alors on va dire qu'on est dans la norme. Malheureusement, bien souvent, ce sont les enfants qui en font les frais. Et on n'est pas là pour disserter là-dessus, c'est un fait de société. Donc, disais-je, je vis seul avec ma fille. Heureusement, avec sa mère, on s'entend bien. Et on s'efforce de tout mettre en place pour que sa vie soit une réussite. Le lycée, ses amis, ses fréquentations, on suit ça de près, voyez-vous. Même si, avec sa maman, on n'a pas trop envie de s'immiscer non plus dans sa vie privée. Elle grandit, elle est en première et elle devient indépendante. Petite, Léa était un être lumineux. Elle jouait avec passion pendant des heures. On partageait plein de trucs ensemble. Elle voulait devenir archéologue. Puis, je sais pas si c'est la séparation avec sa maman ou l'entrée au lycée, mais c'est comme si un truc s'était brisé en elle. Et comme on discute moins avec Léa, ben ça laisse place à beaucoup d'incompréhension, tu vois. Quand elle revient du lycée, je lui demande... Léa, ça s'est bien passé ta journée ?
Ouais.
J'ai l'impression que ça la saoule de me répondre, et à mon avis, c'est pas qu'une impression. Alors elle retourne à son occupation favorite, son portable. Elle est toujours campée dessus, et je sais pas ce qu'elle y fait. Puis, comme j'ai pas trop envie d'aller au conflit, alors je passe quoi. En même temps, je vais pas la blâmer, hein. Je fais pareil parfois. Je scroll. En anglais, ça veut dire défilement. Et ça, quand tu commences, des minutes, voire des heures peuvent s'évaporer sans même que tu t'en rendes compte. Captivé par le flux continu d'images qui défie notre capacité à décrocher. J'ai l'impression d'être plongé dans Orange Mécanique, comme Alex Delarge, personnage principal. Qui, abreuvé d'images en tout genre et de scènes hyper violentes, subit un méchant lavage de cerveau. Bon, si t'es jeune, t'auras pas les refs, mais regarde plutôt.
Il consiste en quoi, au juste, le traitement que vous allez me faire ?
C'est très simple, en réalité. On va juste vous faire voir quelques films.
Comme si on m'emmenait au ciné ?
Ouais, c'est un peu ça.
Coucou,
c'est une table ?
C'est quoi ça ?
De l'eau.
C'est quoi ça ? Tableau.
Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu que la plupart des hommes rêvent d'une quatrième guerre mondiale ?
Ça, c'est des bonnes friandises. Ça, c'est un chat. Allez, check. Yes.
Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ?
T'es député, c'est grâce à nous. Pour moi, toi, dès que tu parles, il ferme ta gueule. Toi, t'es une merde.
Détachez-moi. Je veux vomir. Assez, je vais vomir, je vous dis.
Voyez-vous, un homme sain qui est mis en présence d'une image haïssable a un réflexe de peur et de nausée. Vous redevenez sain, voilà tout.
Bon, faut espérer que je finisse pas comme lui quand même. Hein. En vrai, c'est un peu comme si t'étais au casino et que tu jouais au jackpot. Sauf que là, les crédits sont illimités et les images tout aussi débiles les unes que les autres. J'ai lu une étude, il n'y a pas longtemps, oui ça m'arrive de lire aussi, sur les effets néfastes des réseaux sociaux en termes de santé mentale pour nos chères têtes blondes, et pas que. Je vais m'inclure dans le truc, hein. Mais en termes de baisse de QI, de symptômes dépressifs, sans compter la perte de temps et le côté addict du machin, ouais, quand on y réfléchit, ça fait peur. Des fois, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais en vrai, ça m'attriste beaucoup de la voir s'éloigner de moi, car je suis un peu papa poule. Alors, je me dis, elle a sa vie, puis j'ai la mienne, c'est normal. J'ai mon boulot, mes collègues, mes activités. Le soir, quand je rentre à la maison, pour m'éteindre le cerveau, ça m'arrive même de regarder Hanouna.
Moi, ça me fascine de voir que le succès des émissions de merde tient juste grâce à des gens qui disent « Ouais, non mais moi je regarde, mais c'est juste pour voir le niveau de nullité du truc. » Mais quoi, la merde t'intéresse en fait, c'est... T'es merdologue, peut-être.
Puis le week-end, il m'arrive quand même de sortir un peu. Moi, ma passion, c'est le ballon ovale. Les copains, le rugby, ici, c'est sacré. Moi, je supporte l'île Jourdain et je suis sang et or.
Ouais, et moi, c'est Léa et je te supporte tous les jours, papa. Et la seule personne à qui j'ai envie de me confier dans cette maison, c'est Walter, mon fidèle compagnon, et aussi parfois mon journal. Cher journal, aujourd'hui a été une journée comme les autres au lycée. Les cours étaient ennuyeux, les devoirs insupportables. La routine, quoi. J'aimerais bien ressembler à ces filles trop cool que je vois au lycée. Elles sont grave belles. Mais dans ma tête, c'est une toute autre histoire. Je passe mes journées à rêver d'une vie beaucoup plus excitante comme celle que je vois sur TikTok. J'imagine dansant avec mes amis dans des tenues trop stylées. Chaque mouvement de choré capturé pourrait être partagé avec le monde entier. Je fantasme sur des vues qui explosent, des likes à n'en plus finir et des commentaires d'adoration. Et pourquoi pas créer mes propres trends ?
En vrai, je gagne...
Lâche le chiffre !
Dans les 2000.
Tu cherches à perdre le gras des cuisses.
Mes stars, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un overlay de qualité.
Mais il y avait qu'à demander en...
Franchement, elles sont pas trop belles, ces filles. Elles doivent avoir une vie de ouf. Tout doit être facile et beaucoup plus simple.
On verra qui fera le premier pas.
Mais la réalité me rappelle rapidement à l'ordre lorsque la sonnerie retentit, me ramenant brutalement à mes devoirs et à mes responsabilités. J'aimerais tellement être comme elle. Alors que moi, je suis en train de moisir à l'île Jourdain et les seules activités qu'on va me proposer, c'est d'aller voir le rugby avec les vieux copains de mon père. Quoi ? Elles ont fait 1,7 million de vues ? Et pourquoi moi, je pourrais pas faire comme elles ? Allez, je me lance. Si ça marche pour elles, ça marchera pour moi. Je vais enfin devenir quelqu'un.
Oula, tu as l'air fatiguée. T'es sûre que ça va bien ?
Oui, papa, tout va bien. La journée qui a suivi a été la pire de ma vie. C'est comme si chaque clic était un coup de couteau porté à ce qu'il me reste d'estime et de confiance en moi. En cours, j'ai senti les regards méprisants, rabaissants, haineux. Même celles et ceux que je pensais être mes amis n'osaient pas me soutenir ouvertement, de peur d'être eux-mêmes la cible de ces attaques. Je me suis sentie seule, trahie, haïe, salie, comme si le monde entier s'était ligué contre moi. Et puis, il y a eu ça.
Franchement, tu fais pitié.
Oh, t'as cru t'allais faire des vues avec ça ?
Sale clochard.
Et si tu veux faire des vues, c'est toi en direct.
Connasse.
T'as pas pensé à t'acheter une vie ?
Personne ne peut me comprendre. Mon père, il sert à rien. Ils ont raison après tout, à quoi bon continuer ? Je suis moche, je suis dégueulasse. parle.
Encore une fois, on peut déjà un grand, 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 grand bravo à Olivia, comme c'est marqué à la fin, mais qui a prêté sa voix pour faire la voix de Léa dans ce tournage, qui elle aussi, dernièrement, a participé à l'émission de radio à mes côtés. Donc voilà, ils sont sollicités, ils s'y mettent à fond. Donc un grand bravo aux élèves de la MFR et également un grand bravo à Aurélien, ici présent sur la scène, pour la voix du papa dans la vidéo. Aurélien Miomandre, formateur à la MFR. Je vais me tourner cette fois-ci donc vers Leïla Bourrel. Donc Leïla Bourrel, donc psychologue libérale. Mais déjà peut-être première question rapidement, mais on a eu les psychologues donc au sein de la maison des ados. Vous êtes une psychologue libérale. Quelle est peut-être la différence? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot libéral justement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en quoi consiste votre métier, s'il vous plaît, Leïla?
Alors le libéral par rapport à la maison des adolescents, c'est je travaille alors pas seule, hein, mais je travaille. En interaction avec d'autres professionnels, mais je me rends, alors la particularité aussi, c'est que je me rends au domicile moi du patient, mais sinon les libéraux, on travaille en cabinet, donc on est quand même plus isolé, on va dire, que les autres professionnels dont mes collègues ici présentent. Voilà, la particularité c'est ça, c'est de travailler en réseau, mais de le chercher, de le conquérir, de le découvrir. Mais et alors, on s'est connus aussi parce qu'on travaille ensemble. Il y a quand même cette idée de maillage. Il y a des échanges, de la formation. Je suis allée à la MDA pour aussi me former. Enfin, voilà.
Donc, vous allez intervenir là. Je vais vous laisser la parole justement pour ce lien. Ce petit film n'a pas été envoyé à ce moment-là pour rien. Donc voilà, pour la connexion entre les parents, les ados, Internet, les réseaux. Ouais. Je vous laisse la parole, Leïla.
Oui. Alors, pour faire le lien, là, on voit qu'au début de l'histoire, il y a une famille classique, nucléaire. Donc, une famille, un père, une mère, une enfant. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, on sait aujourd'hui que ce n'est plus la norme absolue. Donc, différentes formes de parentalité. Donc il y a cette famille qui peut être séparée, il y a cette famille qui peut être recomposée, il y a cette famille qui peut être homoparentale, monoparentale. Alors est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'essaie d'être assez succincte? Il me semble qu'on sait à peu près ce que c'est. Bon, voilà. Donc il y a différentes formes de parentalité. Et il y a différents styles éducatifs. Donc on connaît les styles éducatifs permissifs ou... On définit? Ouais? Vous m'aidez? Comme ça, je me sens moins seule quand même. Bon, le style. Alors, il y a un style autoritaire, par exemple. Comment on le qualifie? Comment on le
autoritaire, c'est l'armée? Non, je rigole. Non, autoritaire, ça serait énormément de règles et très peu, finalement, de droits.
C'est très ascendant, c'est-à-dire que c'est le parent qui décide, il n'y a pas le choix et l'enfant.
Il y a une subordination. Voilà.
Ensuite, ça marche bien pendant l'enfance, mais à l'adolescence, ça commence à faire quand même un peu dégâts.
Ça peut faire du mal, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Le démocratique, permissif, on en a parlé. Et qu'est-ce qui nous manque? On est bon.
Le bienveillant.
Bon. Donc on s'aperçoit, il y a différentes formes de parentalité, il y a différents styles éducatifs. Nous, ce qui va nous intéresser, nous convoquer ce soir, c'est la tendance en fait commune, la variable commune, c'est... l'atmosphère familiale. Est-ce que ça vous parle un petit peu? Oui, je vois des oui, merci. Donc finalement, qu'est-ce que ça va être notre rôle de parent à nous? Ça va être ça. Ça va être de créer, de favoriser, d'engager, de permettre, de maintenir cette harmonie, cet équilibre familial, cette atmosphère. Alors ça se crée, c'est conditionné en effet. Voilà, donc notre rôle premier, il est éducatif. Alors, j'essaie de ne pas me positionner en tant qu'éducatrice, en tant que telle, en tant que moralisatrice, mais on a quand même cette mission, nous, en tant que parents. Hein, je me positionne en tant que parent. Donc, par rapport au réseau, dans le découvrir ensemble, finalement, parce que ce qu'on a vu aussi dans ce film, c'est un petit peu deux mondes.
hein, le monde des adultes et le monde des adolescents, avec quand même des points communs, parce que le papa s'aperçoit qu'il scrolle autant que son enfant, hein, il lui reproche d'être sur son téléphone, mais finalement, il est comme elle. Donc, il y a cette question-là aussi de quel modèle on propose au sein de notre famille. Enfin, c'est bien de dire bon, ben, je vais surveiller ton temps de parole, pardon, d'écran. Je vais être vigilant. Mais en même temps, si on est coincé à table derrière notre écran, je suis pas sûre qu'on ait des leçons à donner, quoi. Je vois des petits acquiescements. Bon, donc, il y a cette oui.
Non, j'allais ajouter aussi là, oui. Un peu les différences de. Un parent qui va être un peu ambivalent dans ce qu'il demande ou pas de faire à l'enfant.
Oui.
On peut entendre des fois, ben oui, des fois on lui demande de mettre la table parce qu'on a envie de parler qu'entre nous. Et puis après, bon, ben on lui dit, ben non, ben tu vas pas mettre l'écran à table. Ben c'est compliqué pour l'enfant parce que je dis, ben pourquoi il y a des moments où je peux et des moments où je peux.
Et pourquoi tu nous réponds pas, mais en fait, je suis derrière ma tablette, quoi. Donc il y a cette question de la limite. Alors je l'ai mis un peu en gros, quoi. Hein, la question de la limite, nous en tant que parents, voilà. Qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on favorise, qu'est-ce qu'on souhaite proposer et qu'est-ce qu'on est capable aussi de maintenir comme climat, quoi. Est-ce que c'est clair? Ouais, bon, super, mais je continue. Donc c'est aussi, quand je dis éducation, cette idée à garder en tête qu'on est aussi dans la co-éducation. Et notamment pour cet apprentissage-là du numérique, hein, on parlera de parentalité numérique d'ailleurs. Voilà, le découvrir ensemble, c'est ça, c'est aller se renseigner sur les outils qu'on pourra mettre en place dans notre famille. Alors, ça n'est pas que le contrôle parental, mais ça va être la découverte et la compréhension de tous ces usages des médias, tous ces différents, comment ça s'appelle d'ailleurs, ces réseaux, tout simplement, merci. Voilà, et ça va être une découverte, le découvrir ensemble. Et je pense que l'interaction, elle sera nécessaire au sein de la famille. Alors, souvent, elle se fait de manière naturelle, mais parfois, ça nous semble tellement évident de dire, bon, mais voilà, c'est un souci générationnel, c'est-à-dire, ça leur appartient, moi, je suis complètement déconnectée, TikTok, je suis contre parce que c'est que des images, tatitata. Non, je pense qu'il y a un effort mutuel à avoir. Donc nous en tant que parents, puis bon, nos jeunes se sentiront aussi investis et intéressés, donc il y aura un échange. Voilà, je pense qu'il y a un travail, comment on peut le nommer.
Oui, et puis je pense que ça c'est d'autant plus intéressant sur qu'est-ce qu'on fait derrière un écran. Autant on peut être sur TikTok, autant on peut être sur Insta. Oui. C'est pas la même chose, surtout pour les ados, ça a pas la même utilité d'être sur TikTok ou d'être sur Insta. Si je joue à GTA, c'est pas la même chose que si je joue à Minecraft. Et qu'est-ce que je cherche dans ce jeu? Et rien que ne serait-ce que de s'intéresser, c'est quoi ce jeu vidéo? C'est pas pareil de jouer sur un PC que de jouer sur une Play. C'est des choses qui paraissent bêtes, parce que tout ça, c'est des écrans, mais c'est quand même pas la même chose. Et rien que s'intéresser, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les règles du jeu? C'est quoi l'objectif du jeu? Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu? Ben, ça ouvre déjà le dialogue et ça permet peut-être moins d'être enfermé dans sa chambre derrière son écran à jouer des heures à Minecraft, parce que quand on s'y intéresse, ben, en fait, même nous, on aurait peut-être envie d'y jouer un peu.
C'est ce que j'allais compléter. Je trouve ça intéressant aussi dans l'aspect éducation, de se dire que c'est aussi, en fait, ça va dans les deux sens, quoi. C'est-à-dire qu'un enfant, il va peut-être aussi prendre du plaisir à faire découvrir à son parent, mais regarde comment ça marche, etc. Et c'est là où c'est chouette, parce que évidemment que les ados ou les enfants, ils vont aller beaucoup plus vite que les parents pour découvrir tout un tas de plateformes, de jeux ou peu importe. Donc je trouve ça intéressant aussi que ça aille dans les deux sens, en fait, l'éducation.
Voilà. Cette question donc du découvrir ensemble, quoi. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour tout le monde. Voilà, donc après, oui, pour finir, hein, mais c'est toujours pareil, cette question de la personne ressource à aller trouver, hein, cette nécessité de communiquer dans le groupe de pairs, dans l'établissement, voilà. Après, j'aurai des références à vous fournir, mais je ne vais pas spoiler le reste de mes collègues, donc je le dirai peut-être à la fin. Donc on peut enfin passer à l'autre vignette. Bon ben voilà, et ça en découle le côté préventif, hein, pour se dire, donc là je mets ma casquette un peu moralisatrice quand même, le devenir des posts et des photos. On le sait, on n'est pas si naïf, mais on va quand même le rappeler. On a tendance à se dire c'est super, j'ai passé des super vacances. Un jeune va vouloir partager son enthousiasme, à dire j'étais avec mes copains, c'était génial, donc on a fait des photos, tout ça. Bon, alors je travaille pas pour certains services, mais enfin, on sait ce qui se passe aujourd'hui, notamment sur des réseaux comme TikTok, où les images, ben, finalement... Alors, à mon époque, on appelait ça un cloud, une toile. Ça se dit toujours ? Ouais, ça se dit toujours. Bon, tout ça pour dire quoi ? Que ce qui est mis en termes d'image, ce qui est proposé sur ce réseau-là, finalement, on ne sait pas ce que ça devient. À part si on a mis des super paramètres et des super verrouillages, mais on ne sait pas ce que ça devient. Donc il y a toujours... On est d'accord ?
Ouais, alors moi je dirais même qu'avec des super paramètres, la capture écran, ça existe.
Voilà.
Et qu'après, vous ne savez pas qui enregistre sur son ordinateur votre photo, même si vous la supprimez par la suite ou si c'est supprimé suite à une enquête, hein, je parle pour ma part. On ne sait pas ce qu'il en devient, et si ça ne ressort pas avec un photomontage, ainsi de suite.
Voilà, et oh mince, il y a un bug. Oui.
Ah, celle-là est très mal refaite. Hein,
alors, c'est bien pour détendre, mais c'est vrai qu'on se dit que donc avec cette intelligence artificielle notamment, on peut faire des choses formidables. Donc là, j'avais un petit exemple.
Voilà. Ouais, merci.
Un petit exemple pour enchaîner. Récemment, donc moi, je regardais la télé. Récemment, je regardais un journal, pour ne pas citer, Le Petit Quotidien. Bon, et je vois, donc c'était une invitation de joueurs, d'artistes, donc Kylian Mbappé, qui était invité à l'Élysée. Donc on le voit, ça arrivait très bien. Il arrive devant, il est très bien habillé, génial, tout va bien. Et puis je regarde l'image suivante et je vois Kylian Mbappé en train de proposer un discours politique, donc avec le décor de l'Élysée, mais c'était hyper sérieux. Et pendant une fraction, même quelques secondes, je me suis demandé si c'était vrai, en fait. Et pourtant, je ne pense pas être la plus naïve. Et donc, voilà, tout ça pour dire qu'on peut y croire. Et quand on n'est pas préparé, formé, en alerte, entre guillemets, on peut se laisser prendre, quoi. Et donc, nous, adultes, on est censé avoir cette culture, on est censé avoir cet esprit critique, on est censé avoir cette réflexion. Je pense qu'il faut qu'on continue de l'enrichir et qu'on essaie de l'enrichir dans la mesure du possible avec nos jeunes, que ce soit notre famille, nos proches, nos enfants, nos jeunes. Ils ont besoin de nous pour ça, pour cette grille de lecture. Oui.
Puis là, ce qu'on voit, c'est que Léa, elle veut absolument que ça soit vu. Elle le poste pas pour que ça reste perso, oui, protégé. Non, non, elle le cherche parce qu'elle cherche une reconnaissance à travers ce qu'elle poste. Oui. Donc déjà, même quand elle le fait dans l'intention que ça soit repartagé.
Voilà. Alors, oui.
Juste pour info, vous avez une série qui, enfin une, oui, une série que je recommande pas mal en général, qui est la série Dopamine sur Arte, et qui reprend un petit peu en fonction des réseaux sociaux comment fonctionne le cerveau et qu'est-ce qui fait qu'on reste sur une application. Donc ils ont fait Snapchat, Instagram, TikTok, etc. Et ça, c'est hyper intéressant. Ah, pardon. Ok.
On spoil.
Ok. Voilà.
Merci beaucoup, Leïla, déjà pour cette intervention et du coup complétée par Frédéric et Elodie. Donc je vais faire un petit peu de place parce que je vais inviter à mes côtés donc les quatre étudiants de l'Institut de formation du métier de la santé que sont Eva, Romane, Léa et Baptiste. Je vais leur donner un micro et je vais leur laisser la place. Ah bah vous avez chacun, ouais, très bien, chacun leur micro, encore mieux, oh, c'est encore plus pratique, génial. Bonsoir tous les quatre. Donc moi je vous laisse chacun prendre un micro, regardez même le quatrième, chacun le sien. Bonsoir à tous les quatre, merci d'être là, d'avoir patienté un petit peu dans l'ombre pour cette première partie de conférence. Donc avant de vous laisser la parole, je voulais savoir dans quel cadre vous en fait vous interveniez ce soir. Vous êtes étudiant à l'Institut Formation des Métiers de la Santé, le IFMS du GERS. Dans quel cadre vous intervenez ce soir pour cette conférence?
Eh ben bonsoir. Alors nous, on est venu ce soir dans le cadre de notre projet de service sanitaire de prévention en santé publique et dans lequel on doit aborder une thématique en lien avec l'actualité. Donc nous, on a été gentiment invités par la MFR. Sélectionné sur le volet. Oui.
C'est le gratin, quoi, qu'on a trop vraiment de la chance, trop cool.
Voilà, c'est ça. Et donc oui, on a été très gentiment conviés par la MFR à se joindre à ce projet de conférence sur le harcèlement, dans lequel nous, on va plus explorer le cyberharcèlement.
Bah écoutez, la parole est toute à vous. On vous laisse développer, nous dire ce que vous avez à nous dire, ce que vous avez préparé. Allez-y, je vous laisse, on vous laisse la place.
Eh ben, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec une question. Donc, je vous laisse sortir vos téléphones, vous connecter. Oui. Donc, pour toi, le cyberharcèlement, c'est quoi ? Alors, le cyberharcèlement, le harcèlement sur Internet, oui, forcément. Des insultes sur les réseaux, du harcèlement sur les réseaux. Bon. Le harcèlement sur les réseaux, encore une fois, c'est un fléau, oui. De harcèlement sur les réseaux, encore, on y revient. Du harcèlement sur les réseaux, c'est vraiment ce qui va ressortir. Les réseaux, on va en parler, ça va être notre thématique principale. Les réseaux, encore une fois, les réseaux sociaux. Bon, bah, vous avez à peu près fait le tour, je pense, on a compris. Je vais vous donner une définition qui va être un peu plus complète, un peu plus poussée qu'on va prendre moi, c'est la définition de l'éducation nationale qui définit, alors je l'ai pas apprise par cœur, hein, excusez-moi, qui définit le cyberharcèlement comme tout acte agressif intentionnel qui est perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut pas facilement se défendre seule. Donc pour vous, c'est quoi les réseaux sociaux que vous utilisez le plus ?
Alors là, du coup, ce qui revient le plus, donc, c'est YouTube avec 30%. Ensuite, il y a Snapchat avec 27%. Facebook, 25%. Et le moins utilisé, Twitter et Twitch.
Maintenant, je vais vous demander s'il y a des gens qui veulent bien répondre. Pourquoi est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux ? C'est quoi votre objectif principal quand vous allumez votre téléphone et que vous vous dites « là, je vais aller ouvrir Instagram, Twitch, YouTube ».
Et pour ceux qui posaient la question, pardon, le X, c'est Twitter du coup. Maintenant, c'est passé X.
Moi, j'utilise les réseaux sociaux pour me divertir et pour apprendre des choses. Parce que sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de se divertir, mais il y a aussi de l'actualité. En fait, sur TikTok ou autre. Et voilà.
Ok, ouais. Ça peut être un mode de divertissement. Ça peut être suivre le fil de l'actualité sans forcément regarder les infos habituelles.
Alors, moi, j'utilise pas les réseaux sociaux qui m'ont été présentés. Moi, j'utilise Discord personnellement, où je fais des rencontres avec des inconnus pour jouer à des jeux vidéo, par exemple, et avec qui je finis par bien m'entendre dans le temps.
Moi, j'utilise pour échapper à la réalité. Pour être au courant de l'actualité et savoir ce que font mes amis ou autres.
Alors moi, je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui ne me plaît pas forcément beaucoup. Mais par contre, le peu que j'utilise, alors moi je suis à la vieille école, je suis au Facebook, hein, donc voilà. Mes élèves me le disent assez souvent. Moi je l'utilise par exemple, c'est plutôt pour... voir un peu au niveau de professionnel, parce que des fois on rencontre des réseaux qui peuvent aider. Ou alors je l'utilise aussi parce que je fais partie d'une association et je promue des sorties ou des spectacles ou des concerts gratuits. Et donc voilà, je l'utilise pour promouvoir ce lien-là avec les gens, comme les jeunes, qui l'utilisent plus que, je ne suis pas une personne âgée, mais comme les personnes plus, moins jeunes. Voilà. Voilà, mûr, merci.
Ok, donc moi maintenant je vais vous faire un topo un peu sur les différents réseaux qui vous sont présentés devant vous à l'écran et le moyen, on va dire, le plus commun de les utiliser. Alors on va commencer par Snapchat. Snapchat, c'est quoi ? Ça permet d'échanger des messages et des photos et des vidéos avec d'autres utilisateurs, avec la particularité qu'une fois qu'on aura visionné les photos, les vidéos ou les messages, ils seront instantanément supprimés et donc normalement c'est pas censé laisser de traces. On a ensuite Insta qui permet de partager ses photos et ses vidéos, cette fois sur un fil d'actualité qui peuvent être consultés soit par des amis, soit de façon publique. Si on choisit de mettre notre compte en public, c'est à notre propre initiative. Et on peut également mettre des appréciations positives sur les j'aime et laisser des commentaires sur les publications des autres utilisateurs. Pour YouTube, ça sert principalement à visionner des vidéos ou alors regarder du contenu et interagir avec les autres utilisateurs avec des likes et notamment l'espace commentaire. Pour Facebook, je pense que ce qui est le plus connu d'ici dans la salle, permet de publier les images et les photos et des vidéos avec n'importe quel fichier et de documents qui servent à échanger des messages. Et là, la particularité, c'est qu'on va pouvoir créer des groupes dans lesquels on va pouvoir inclure un grand nombre de personnes. On a ensuite Biril, qui est l'application de partage de photos qui permet de publier la photo où l'on est censé se trouver avec l'action que l'on fait à l'instant T au moment où on reçoit la notification. TikTok, qui permet de visionner et réaliser, partager des clips musicaux ou encore des vidéos courtes avec sa propre voix ou avec ce qu'on appelle des trends, c'est-à-dire des tendances, des danses, du chant ou plein d'autres contenus qui peuvent être utilisés par tout le monde et qui peuvent être reproduits de façon massive et qui là est publié et partagé à tout le monde. Ensuite, Twitch, qui est une plateforme de streaming en live, donc c'est-à-dire que c'est du direct, comme si vous regardiez la TV, sauf que là, en fait, ça va être plus orienté sur tout ce qui va être aspect jeu vidéo. On va aussi avoir des gens qui sont là pour débattre sur des sujets divers et variés, où il va y avoir un animateur, ce qu'on appelle le streamer, qui va pouvoir interagir directement avec sa communauté par le biais d'un fil de messages. Et enfin, Twitter, où là, on va avoir, en général, là où on peut retrouver le plus de débordements. Parce que la particularité de ce qui différencie ces sites, c'est pas non seulement l'usage qu'on en fait, mais c'est aussi l'usage qu'en a décidé la société elle-même, de par exemple, la modération qui est présente plus ou moins fréquemment sur les sites, et donc, par exemple, sur aujourd'hui X, là où la modération est très peu présente et où on va pouvoir voir des débordements assez souvent sans forcément qu'il y ait de pénalité derrière.
On en oublie un de réseau social, parce que bon, là on voit un peu les bons et mauvais côtés des réseaux sociaux, on va dire au sens propre du terme du social, mais il y en a un aussi qu'on utilise en tant que professionnel, c'est LinkedIn, et qui permet aussi de mettre en relation des professionnels et de partager des choses qu'on fait, nous, en tant que professionnels, sur des évolutions, sur des choses comme ça. Et je pense que cette utilité-là, elle a le mérite d'être relevée aussi.
Alors maintenant, pardon, je ne suis pas très à l'aise. Hein. Vous me pardonnerez. Alors, du coup, pour avoir quelques chiffres sur à peu près les personnes qu'on est dans cette salle, je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez déjà subi du harcèlement ? Je précise que c'est anonyme et que voilà, il n'y aura pas de prénom affiché. Et on peut voir que 56% des gens ici, malheureusement, ont déjà subi du harcèlement, ce qui est énorme. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour pouvoir en parler et éviter tout ça. Donc ensuite, si vous avez déjà subi du harcèlement, de quelle manière ça s'est produit ? Donc on a au rouge les moqueries, pour le bleu le cyberharcèlement, le jaune les violences physiques, le vert les menaces, le bleu clair le vol ou le racket, et enfin le harcèlement sexuel en violet. Donc on peut voir ce qui revient le plus, du coup avec 71%, ce sont les moqueries. Ensuite, on a beaucoup les menaces et enfin les violences physiques. Donc comme on a pu voir, ce qui démarre souvent le harcèlement en milieu scolaire. Et sexuel, pardon, j'avais... Ensuite, si vous en avez parlé, avez-vous en parlé à quelqu'un, pardon. Donc on peut voir que 74% en ont parlé et 53% n'en ont pas parlé. Donc il n'y a quand même pas beaucoup d'écart. Mais on le verra après qu'il est important d'en parler, même si ça peut être compliqué. Et ensuite, si vous en avez parlé, à qui en avez-vous parlé ? Donc en rouge, on a les parents, en bleu, les enseignants, en jaune, la CPE, en vert, les amis, en bleu clair, les professionnels de santé, ou si jamais en violet, à mon animal. Donc on peut voir qu'en majorité, avec 48%, c'est les parents. Ensuite, on a quand même les amis avec 17%,
les enseignants avec 8% et enfin mon animal avec 15%. Au moins, ils ne nous répondent pas. C'est pas mal. Et enfin, une petite question. Combien de temps passez-vous sur votre téléphone quotidiennement? Alors, en rouge, moins d'une heure. En bleu, entre 1 et 3 heures. En jaune, entre 3 et 5 heures. Et enfin, en vert, plus de 5 heures. Et on répond honnêtement parce qu'on a tous le temps d'écran sur nos téléphones. Hein. Oula! Donc on peut voir que pour plus de la moitié d'entre vous, plus de 5 heures sur le téléphone. Alors c'est beaucoup. Ensuite on a 33% entre 3 et 5 heures et enfin 31% entre 1 et 3 heures. Donc bon, les réseaux sociaux, ça doit y aller hein, quand même.
Du coup, tout à l'heure, on a parlé des réseaux sociaux, un peu de l'utilité qu'ils en avaient. Il y a beaucoup d'effets néfastes, malheureusement. Je pense qu'on s'est déjà un peu tous retrouvés. Je vais vous donner un petit exemple dans cette situation où on poste une photo de nous, de nos vacances sur Instagram. Et puis, on aime bien regarder qui a commenté, le nombre de likes qu'il y a. Et on peut des fois comparer avec une ancienne publication et se dire qu'il y a moins de likes que la dernière fois ou des choses comme ça. Et ça, ça fait énormément baisser l'estime de soi. Il peut y avoir aussi une grosse fatigue. Là, on l'a vu tout à l'heure, il y a 10 secondes. Le temps d'écran, 5 heures passées, ça fatigue énormément. Après, il y a aussi beaucoup d'absentéisme à cause du cyberharcèlement, parce que soit par la fatigue, les élèves ne veulent pas aller en cours, ou encore ils ont peur aussi souvent des moqueries qu'ils peuvent avoir à l'école. Et donc, il y a aussi un décrochage scolaire qui peut être présent.
Et ensuite, il y a aussi beaucoup de troubles du comportement alimentaire. Comme on a vu sur les réseaux sociaux, on voit toujours les filles toutes fines, toutes belles en maillot de bain. On veut faire pareil. Ou alors, avec un peu de dépression aussi, ça peut entraîner. Donc, on peut se réfugier soit dans la nourriture, donc prendre du poids, ou alors moins manger dû au stress, tout ça. Ça peut aussi entraîner des troubles du comportement alimentaire. Et enfin, je vais vous faire une petite conclusion. Ah, pardon.
Vous m'entendez mieux? Oui. Ah, oui. Sans que... Je répète ou... par rapport à la diapositive précédente, je voulais savoir, par rapport à son ado, comment limiter, en fait, le temps d'écran? Est-ce qu'il y a une limite à ne pas dépasser, à essayer d'instaurer, parce que c'est assez compliqué quand ils sont dessus de mettre le haut là. Ça crée des fois des situations conflictuelles. Et voilà, donc en tant que parent, on ne sait pas toujours où mettre le curseur. Donc peut-être justement par rapport à ça, vous pourriez nous éclairer.
Je pense que la question, c'est il y a écran et il y a écran. C'est pas la même chose d'être derrière son ordi tout seul sur Insta ou sur TikTok et être en famille devant la télé et regarder le film tous ensemble.
Oui, quand ça, je parle d'écran, c'est plutôt téléphone ou console.
Donc c'est plutôt les écrans seuls, pas partagés.
Oui, voilà.
Alors, est-ce que l'adolescent qui est derrière son écran, il est réellement seul? Je ne suis pas persuadée, parce que les réseaux sociaux, c'est tout l'intérêt, c'est aussi d'être social, et c'est aussi le moyen qu'ils ont de communiquer entre eux. Quand je suis sur TikTok, alors pas moi personnellement, mais quand un adolescent est sur TikTok, oui, il regarde des trends, mais aussi il reposte des trends, et c'est aussi sa manière à lui de s'adresser à ses camarades et à ses pairs. Donc, ils communiquent aussi comme ça. Donc, ça fait partie de leur socialisation. Donc, dire qu'il ne faut pas de réseaux sociaux, c'est à bannir, c'est aussi... leur enlever cette part-là de socialisation qui est nécessaire. Et après, il y a ceux qui passent toute leur nuit, qui dorment plus, qui du coup peuvent plus aller en cours. Et ça, c'est encore un extrême. Et finalement, dans ce continuum de tout ou rien, ben, il y a le juste milieu à trouver. Je ne pense pas qu'il existe une réponse unique. Je pense que la réponse, elle s'adapte aussi à chaque famille, à chaque mode de fonctionnement dans les familles, à chaque style éducatif. On en a parlé tout à l'heure avec Leïla. Mais... je pense qu'il y a une règle à trouver ensemble et finalement c'est un consensus. Et qu'est-ce qui semble ok chez vous, qui sera peut-être pas ok chez moi, mais qui sera aussi ok chez mon voisin? Et ça dépend de tout à chacun. Et en plus, derrière les écrans, il faut aussi rajouter qu'aujourd'hui, un adolescent, même quand il fait ses devoirs, il est derrière un écran et potentiellement derrière un réseau social, parce qu'il peut faire aussi des travaux de groupe. Donc est-ce que ça, on le déduit du temps d'écran ou pas? Et tout ça, c'est des questions finalement qui se posent. Et je pense que au-delà du temps, c'est plutôt à quelle heure on arrête, à quelle heure on pose le téléphone, à quelle heure on est en famille. Est-ce qu'à table, on a le téléphone ou pas? À mon sens, c'est plutôt non. Mais dans ce cas, c'est un temps sans écran. Est-ce qu'à 21h, 21h30, on a encore son téléphone seul dans sa chambre? Bon, mais ça, c'est à chacun d'y répondre. Il n'y a pas vraiment de recommandation en soi. Ce qu'on se rend compte, par contre, c'est que très jeune, dès 3 ans, c'est extrêmement jeune, on a déjà des temps d'écran supérieurs à 2 ou 3 heures. Alors que les recommandations de l'OMS, c'est pas d'écran avant 3 ans. Ça veut dire même pas la télé en famille avant 3 ans. Donc en fait, ça va être une règle finalement de juste milieu à trouver en famille. Et c'est peut-être pas la même chose pendant les vacances d'été que pendant les vacances d'hiver, ou pendant le week-end, ou pendant la semaine de cours. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de réponse. Je suis désolée.
Dommage. Merci.
Pardon, je voulais juste, par rapport à ce que disait Frédéric, c'est vrai qu'en consultation, on a des parents qui nous disent, mais j'espère ne pas faire tout tomber, qui nous disent, en fait, ce type de question-là, à combien d'heures je dois m'arrêter, etc. Parce que, en tant que parent, oui, on a besoin d'être rassuré là-dessus et presque d'avoir un guide, finalement. Mais nous, on va aller pousser un peu dans le détail, c'est-à-dire que si le jeune a des amis à l'extérieur, qu'il arrive à aller faire des sorties, que ça se passe bien, qu'il arrive à accrocher à l'école, etc. Si tout se passe bien, mais que l'ado, son grand plaisir, c'est le dimanche de passer 4 heures sur un écran, si tout le reste fonctionne bien, ben pourquoi pas finalement ? Par contre, si c'est un ado qui n'a pas d'amis, qui reste à la maison, qui est en dépression, etc., et que la personne me dit, l'après-midi, il passe 4 heures sur l'ordinateur, on le verra peut-être différemment. Ça va être vraiment au cas par cas, en dehors de effectivement, ces âges où on ne préconise absolument pas les écrans, donc en dessous de 3 ans, etc. Bien que ce soit, on le voit dans la rue, les tout-petits ont des écrans déjà.
J'ai une question. Est-ce que, par exemple, il y a des parents qui mettent... j'ai une amie qui est même au lycée et ses parents, ils lui mettent le contrôle parental. Qu'est-ce que vous en pensez du contrôle parental ?
Je ne sais pas si je suis sincère ou pas. C'est propre à chacun, oui. Et après... comment ? C'est pour son ami, oui. Le contrôle parental, tout dépend de l'âge aussi, effectivement, de l'adolescent. Ça peut être intéressant si c'est, travailler en famille. Pourquoi on a posé le contrôle parental? Pourquoi on bloque ça et pas ça? Il ne faut pas que, voilà, si la personne le subit, l'adolescent, de toute façon, je pense, va trouver des moyens de lever le contrôle parental, dans tous les cas. Donc, c'est toute la discussion qu'il y a autour de ce contrôle-là.
C'est pas la même chose d'avoir un contrôle parental quand on est en sixième avec son premier téléphone et avec des réseaux sociaux qui, sur le papier, nous sont interdits, hein, où on n'a même pas l'âge d'y être inscrit. Et c'est pas la même chose après d'avoir un contrôle parental en terminale où on va sur ses 18 ans, quoi. Et c'est qu'est-ce qu'il y a derrière contrôle parental ? Il y a le contrôle parental où le parent a juste une gestion du temps. Ça veut dire que l'adolescent a droit à 2 heures de téléphone par jour, et au bout de ces 2 heures, quoi qu'il se passe, les téléphones s'éteignent. Et il y a contrôle parental où le parent peut suivre en direct ce que son adolescent fait sur son téléphone, c'est-à-dire lire ses conversations, ses messages. Et là, à mon sens, on franchit une limite, celle de l'intimité, quoi. Donc, il y a contrôle parental et contrôle parental. Et il y a aussi la question de l'âge. Mais quand même, un enfant étant mineur, surtout, ça répond à ta question ?
Il y a une dernière question, je vois, on va être obligé, on va la laisser la poser. Après, il faudra que malheureusement on continue si on veut essayer d'à peu près, on est déjà bien à la bourre, essayer d'à peu près de dépasser le moins possible le timing qu'on s'est fixé. Donc, on va passer à la dernière question et après, ce sera au tour de Frédéric C. d'intervenir.
Moi, c'est pour juste revenir à ce que disait la dame tout à l'heure. Je pars d'un principe en tant qu'ado que plus on va m'interdire quelque chose, plus je vais le faire en fait. Donc, peut-être trouver une alternative, je sais pas, proposer des jeux le soir en famille ou autre. Et après, pour les enfants, moi j'ai un petit frère de 4 ans. C'est vrai que quand on rentre ou du stage ou ma mère du travail, ben, on va sur nos téléphones. Donc, forcément, mon petit frère il fait la même chose, il regarde la télé parce qu'on joue pas avec lui, mais il faudrait stopper ça.
Mais c'est très vrai, hein, ce que tu dis, c'est très vrai. Et j'ai perdu ce que j'allais dire sur la première chose. Quand on me dit quelque chose, intéressant. Oui, ce qu'on dit aussi souvent, c'est punir son téléphone d'écran, punir son adolescent d'écran, c'est une chose.
Très grosse punition, tu veux dire, si tu punis le téléphone d'écran, ça marche moins bien.
finir son ado d'écran, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on propose à la place ? Si jusqu'à aujourd'hui, tout le monde faisait ce qu'il voulait sur son écran, sa tablette, chacun dans sa chambre, et du jour au lendemain, bam, on coupe le Wi-Fi, il n'y a plus d'écran, ok, mais qu'est-ce qu'on fait à la place ? Ça ne suffit pas de juste interdire.
Merci beaucoup, merci pour cette interaction également. Je vais te laisser clôturer, mais voilà, on termine pour le moment, en tout cas, les questions-réponses. Je t'en prie.
Je finis juste par le petit mot de la fin, j'aime bien faire ça. Donc il est important de bien connaître et de retenir l'utilisation principale des réseaux sociaux et de les utiliser à bon escient pour éviter tout ce qui est cyberharcèlement, moquerie. Il faut retenir aussi que chacun est comme il est et il doit être fier de la personne qu'il est et qu'il devient. Il n'y a pas de normes physiques, vestimentaires ou même sociales comme parfois les réseaux sociaux peuvent nous montrer et entraîner des moqueries de certains utilisateurs qui ne devraient pas avoir lieu. De plus, le harcèlement et le cyberharcèlement ne devraient plus être subis par personne. Et malheureusement, celui-ci fait encore de nombreuses victimes chaque année. Et c'est même en augmentation. Donc, il est important d'en parler pour que ces phénomènes cessent.
Merci beaucoup à tous les quatre. Donc, Eva, Roman, Léa et Baptiste, donc étudiants à l'Institut de formation des métiers de la santé. Bonne chance dans la suite de votre formation, déjà pour commencer. On vous souhaite plein de courage, parce qu'on sait que c'est pas évident non plus. Et merci beaucoup pour cette intervention à tous les quatre. C'est la fin de ce reportage aujourd'hui, c'est la fin de ce deuxième épisode de la conférence sur le harcèlement organisée le mercredi 13 mars dernier par la Maison familiale et rurale de Cologne au sein de la grande salle de la MJC, la Maison. Encore une fois, un grand merci aux partenaires du projet, la communauté de communes de la Gascogne toulousaine, l'association Happy en Gascogne, l'IFMS du Gers, la CAF du Gers et les transports Chavanon. Cet épisode ainsi que le premier épisode sont retrouvables en podcast sur le site de Radio Fil de l'eau dans l'onglet de croisière. Restez branchés, la semaine prochaine, le samedi 27, retrouvez le troisième et dernier épisode de cette conférence à 15h sur les ondes de Radio Fil de l'eau. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous.